Je suis féministe sur Radio B. Je suis féministe. Finalement, c'est pas si difficile à dire. En tout cas, les trois femmes que j'ai rencontrées en ce début de saison n'ont aucune difficulté à l'affirmer. Peut-être que la question finalement c'est que mettons derrière cette étiquette et du coup, comment la revendiquer? Aujourd'hui, nous en discutons avec Martine Massonnat. Elle a milité dans le collectif Mouvement d'Elle à Bourg-en-Bresse et poursuit son engagement pour les femmes. Je suis féministe. Martine Massonnat, bonjour.
Bonjour.
Martine, je débute chaque interview avec cette question. Est-ce que c'est facile pour vous de dire « je suis féministe » ?
Oui, c'est assez facile pour moi, oui. Parce que pour moi, le féminisme, c'est chercher à ce qu'il y ait une égalité parfaite entre deux individus, un homme et une femme.
À quand remontent justement vos premiers souvenirs de questionnement autour de votre genre, du fait d'être une femme ?
Alors, je ne sais pas si ça m'a posé question un jour, il faut dire. Non, vraiment, je... Quand est-ce que plutôt j'ai pu remarquer peut-être qu'il y avait une différence de traitement entre les hommes et les femmes, parce que simplement dans la société on n'a pas la même place quand même, qu'on le veuille ou non. Alors ça tend à devenir un peu moins inégalitaire, mais moi du temps de mes parents par exemple, c'était quand même beaucoup la femme au foyer, l'homme qui travaillait. La femme qui s'occupait des enfants, c'était vraiment un peu clivé, les rôles.
Et ça, vous l'avez vécu ? Comment vous l'analysiez ? Comment vous voyez ça ?
Alors, quand on est enfant, on intègre un peu cette culture. Et après, moi, mes parents ont toujours fait en sorte que tout le monde, tous leurs enfants aient une vie indépendante. Et autant les filles que les garçons, moi j'ai une sœur, on est deux, hein, on est cinq enfants, il y a trois garçons et deux filles. Donc moi, mes parents n'ont jamais fait de différence au niveau des études, pour que chacun puisse avoir une indépendance financière. D'ailleurs, on est parti plutôt assez tôt de chez eux parce qu'on était en internat. Donc après, moi, ma sœur est partie parce qu'elle travaillait, donc elle a eu sa vie à partir de 18 ans, elle est partie de la maison pour vivre indépendamment. Moi, je suis partie parce que j'ai fait la fac, une fac de psycho, donc je suis partie vivre sur Grenoble. Donc nous avons été indépendantes assez rapidement.
Vous avez vécu les années 70, vous aviez quel âge à cette époque ?
Je suis née en 59, donc j'avais 10 ans.
Vous avez pu un peu vous imprégner de l'ambiance, qu'est-ce que vous compreniez ce qui se passait ?
Alors, à 10 ans, je ne suis pas sûre que je comprenais bien ce qui se passait. Après, plus tard, j'ai remarqué quand même que souvent, mon père disait « Oui, les garçons, c'est ceux qui portent le nom, les filles, ce n'est pas la même chose. » Donc, on ne peut pas dire que c'était un féministe invétéré, on va dire. Voilà. Après, quand on commence à être au lycée, qu'on discute, après la fac et tout, je pense que la conscience, elle vient petit à petit.
Et est-ce que vous remarquez déjà des choses dans la société qui vous gênaient sur l'inégalité entre les hommes et les femmes ? Qu'est-ce qui vous a bouleversé en premier ? Pourquoi vous vous êtes dit à un moment donné, il faut que je lutte ?
Alors, déjà, l'inégalité d'accès à l'emploi, moi, je trouve que c'était... Après, je trouve que c'est quand même beaucoup basé aussi... Enfin, ce qui m'a surtout un peu choquée, c'est que comment... Les choses étaient beaucoup basées sur le fait que les filles étaient belles ou pas belles. Je trouve que ça avait quand même, même quand on est jeune, ça a toujours une importance si on est... Et je trouvais pas ça très juste, quoi.
Au début de votre carrière, vous êtes assistante sociale. Est-ce que ça a marqué aussi votre engagement ? Est-ce que vous avez constaté des choses pendant votre travail ?
Alors, au début de ma carrière, moi, j'étais travailleuse familiale. Donc, j'intervenais dans les familles. Donc, des familles de différentes cultures, hein, parce que moi, je travaillais sur Grenoble. Donc, déjà, là, on pouvait constater quand même sur l'égalité homme-femme que dans certains endroits et dans certaines cultures, mais même chez les personnes, partout, quoi, que c'était pas toujours évident, parce qu'en plus, on intervenait quand même sur des familles d'un milieu social pas très aisé. Donc, c'était un peu plus flagrant. Après, c'est plus par rapport aux situations qu'on rencontre qu'on peut constater des choses. Moi, j'ai toujours été très sensible au fait que des femmes victimes de violences. Voilà, donc bon.
On en parle beaucoup aujourd'hui des femmes victimes de violences, ouais, et du fait qu'on manque toujours de moyens, que leur parole est à peine écoutée par la police, que le suivi n'est pas fait. Comment ça se passait à l'époque ? Est-ce que c'était encore plus incroyable qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'était...
Non. Moi, je trouve pas qu'il y ait, enfin, franchement, je trouve pas qu'il y ait une grande évolution concernant ce problème, parce que de toute façon. C'est, en fait, prendre ce problème en charge, c'est quand même une question de volonté politique, et je ne crois pas que ce soit la volonté politique réelle du moment. Voilà. Et de toute façon, le manque de prise en charge a toujours existé. Aujourd'hui, il existe encore. On voit bien quand même que tout est très long pour se mettre en place, ne serait-ce que, par exemple, l'histoire du bracelet, où l'autre fois, j'entendais une émission, et où comment c'était Marlène Schiappa qui intervenait en disant « Mais oui, mais ça prend du temps, il faut qu'il y ait les décrets, parce qu'il faut qu'on soit vraiment dans la loi. » On sait quand même que c'est quelque chose, le bracelet, qui permet de ne pas approcher les femmes et qui signale dès que l'homme violent approche les femmes. On sait que c'est d'une grande efficacité. L'Espagne, qui est quand même loin d'être un pays qui n'est pas un peu machiste quand même, l'a mis en place très rapidement. On sait que ça a fait baisser de plus de 40% le taux de féminicide. Et nous, on traîne, on ne sait pas pourquoi, quoi. Alors qu'il y a des mesures qui existent, qui sont simples à mettre en place. Donc, moi, je ne trouve pas que ça ait beaucoup évolué.
En 92, vous créez avec d'autres personnes à Bourg-en-Bresse l'association, le collectif Mouvement d'Aile. Ouais. On en a parlé dans l'émission précédente sur la naissance de l'association. Vous, comment vous êtes arrivé dans le collectif ?
Parce que en fait, il est parti un petit peu de personnes qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble. Hein. Donc, on était plusieurs à travailler au même endroit. On avait après, on l'a monté avec d'autres personnes qui étaient proches de nous. Voilà.
Quelles actions du collectif vous ont marqué ? Quels sont les moments marquants, vos meilleurs souvenirs ?
Alors, l'action la plus marquante, ça a été quand le commando anti-IVG s'est attaqué à Fléria. Voilà, ça, c'était une action qui était très, très marquante, parce que quand c'est proche de nous, c'est toujours beaucoup plus marquant, même si on sait que ça existe, mais quand ça arrive aussi proche...
Est-ce que vous pouvez nous remémorer ces instants ? C'était quand ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Alors, c'était en 94, il me semble. Et c'est c'était à ce moment-là, dans les années 90, que la loi Veil avait été remise en cause sur le droit pour les femmes d'avorter. Et donc, il y avait toute une mouvance anti-avortement. Hein, et du coup, qui se sont enchaînés aux portes du centre IVG de Fléria pour empêcher les avortements. Voilà. Donc après, il y a eu un procès. Ça a été très soutenu, entre autres, par l'évêque. Enfin bon, toutes les autorités religieuses, voilà. Et donc il y a eu un procès, et c'est vrai que pour nous, ça a été un moment important, parce qu'on avait organisé un débat, il y a eu beaucoup de monde, et puis voilà, c'était quand même quelque chose d'important, parce que c'est comme tout le temps, quoi, le droit des femmes, il est toujours remis en cause, hein, et celui-là, quand même, c'est régulièrement qu'il est attaqué, quoi.
Justement, aujourd'hui, quel regard vous avez sur le combat des femmes ? Comment vous l'observez ? Est-ce qu'il a évolué ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je constate qu'il faut en fait que toujours être aux aguets, déjà, et puis qu'il faut toujours être en alerte, voilà, qu'il y a toujours des droits à défendre. Pour l'instant, on n'a encore pas, l'égalité salariale n'existe pas. Le partage des tâches, il n'est pas toujours aussi évident. Hein. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus tout être trop négatif. Hein. Bien sûr que dans le partage des tâches matérielles, on a une évolution. On peut constater qu'aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui font du ménage, qui emmènent les enfants à l'école et tout. Après, ça reste un tout petit peu plus délicat sur le fait, par exemple, entre un homme et une femme au travail, elle va souvent quand même être à deux endroits en même temps, c'est-à-dire être en même temps à prévoir les choses un petit peu de ce qui doit se passer à la maison, alors que souvent les hommes, quand ils sont au travail, sont au travail. C'est sur ce petit point-là qu'il n'y a encore pas tout à fait un partage équivalent, je pense.
Ce serait quoi, vous, vos combats maintenant en tant que féministe ?
Alors, ça serait déjà contre les violences déjà faites aux femmes. Hein, je pense que ça, c'est un combat qui est vraiment important pour qu'il puisse exister dans cette société. Vraiment, vraiment une prise en charge de ce type de problème quand même. parce que, voilà, bien sûr, on crée des places, bien sûr, mais en même temps, les centres d'hébergement ont de moins en moins de personnes, d'éducateurs, de gens formés. Il y a de moins en moins de places au niveau collectif. Parfois, c'est utile, le collectif, pour pouvoir être assuré, pris en charge. C'est pas toujours évident de se retrouver tout seul dans un lieu, dans un appartement, quand on a subi des grosses, grosses violences. Donc, voilà. Donc déjà, ce combat-là, je pense qu'il est très important. Et puis, pour une égalité salariale, en tant que, voilà, travail égal, salaire égal, et à compétences égales aussi.
Martine Massonna, merci.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans.
Les femmes ont une autre option. Elles peuvent aspirer à être sages et pas simplement gentilles, à être compétentes et pas simplement utiles, à être fortes et pas simplement gracieuses, à avoir de l'ambition pour elles-mêmes et pas simplement pour elles-mêmes en relation avec des hommes et des enfants. Elles peuvent se laisser vieillir naturellement et sans honte, protestant ainsi activement, en leur désobéissant, contre les conventions nées du deux poids deux mesures de la société par rapport à l'âge. Au lieu d'être des filles aussi longtemps que possible, qui deviennent ensuite des femmes d'âge moyen humiliées, puis de vieilles femmes obscènes, elles peuvent devenir des femmes beaucoup plus tôt et rester des adultes actives, en jouissant de la longue carrière érotique dont elles sont capables bien plus longtemps. Les femmes devraient permettre à leur visage de raconter la vie qu'elles ont vécue. Les femmes devraient dire la vérité.
Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez. Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous.
Un extrait de Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, un ouvrage à transmettre à Noël, un sacré cadeau. Et bien sûr, la musique d'Anne Sylvestre et son fameux titre Une sorcière comme les autres, un hommage à la chanteuse qui nous a quittés il y a quelques semaines. À bientôt.
Bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi. Regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous mon pas et je ne le savais pas. Mais un jour, la terre s'ouvre. Le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyée. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Aïcha, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.